Europe 1 Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Ouais, et on n'a pas fait exprès pour la programmation de l'heure qui vient, puisque les pandas d'un côté et Nixon in China de l'autre, bon, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, c'est ce qui vous attend. Le zooparc de Beauval à 19h15, et puis le panorama sur ce moment de l'histoire, lorsqu'en 1972, Richard Nixon va essayer de dégeler les relations avec Mao Tse-tung sous l'égide d'Henry Kissinger. C'est une partition de John Adams qui relate justement cet événement et qui débarque à l'Opéra de Paris. On en parle avec mes invités, tout cela après votre journal de 19h. Bonsoir Arthur Meuriot.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Et ça tombe bien, il est 19h sur Europe 1. Et au programme de votre journal, un manifestant entre la vie et la mort. Plusieurs personnes, dont deux gendarmes en urgence absolue. Bilan au lendemain d'une journée de violence sans précédent dans les Deux-Sèvres, où un rassemblement illégal s'est tenu pour s'opposer à la construction de méga-bassines.
Une pénurie de carburant est-elle à prévoir cette semaine dans le sud-est du pays? De plus en plus de stations sont à sec et les syndicats mettent en garde. Ce n'est que le début. Également dans ce journal, la menace de l'utilisation d'armes nucléaires par la Russie en Ukraine ne fait que grandir. Kiev demande une réunion d'urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et enfin, nous terminerons ce journal avec du sport, du cyclisme avec la victoire de Christophe Laporte et du football. Vous le verrez, les Bleus se préparent avant leur deuxième rencontre pour les qualifications de l'Euro 2024.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Des maximales qui remontent tranquillement entre 9 et 14 degrés jusqu'à 19 au sud de la Garonne, sous de belles éclaircies de retour quasi partout.
Météo complète en fin de journal. Et retour au calme ce dimanche à Sainte-Soline au lendemain des affrontements avec les forces de l'ordre.
Les manifestants opposés à la construction d'une méga-bassine dans les Deux-Sèvres ne sont pas retournés sur le site aujourd'hui. Au programme, un festival de l'eau, mais aussi le débriefing de la journée d'hier qui a été ponctué par des scènes de violence. Guillaume Dominguez est l'envoyé spécial d'Europe 1 dans les Deux-Sèvres. Guillaume, le bilan de ces affrontements se précise.
Oui, alors même si le bilan de 200 blessés côté manifestants annoncé par les organisateurs reste toujours à vérifier, le parquet de Niort a confirmé en début d'après-midi qu'un homme d'une trentaine d'années est toujours entre la vie et la mort. Il souffre d'un traumatisme crânien, une blessure qui serait liée aux échanges de projectiles entre gendarmes et opposants au projet. Deux autres manifestants sont toujours dans un état grave. Côté forces de l'ordre, 29 gendarmes ont été blessés, dont deux se trouvent en urgence absolue. Une enquête est ouverte par le parquet pour tenter de déterminer les circonstances de ces blessures. Pour les organisateurs du rassemblement, la raison est toute trouvée. Il s'agit d'une stratégie de violence volontaire de la part du gouvernement, selon Nicolas Géraud, porte-parole de la Confédération paysanne.
En tout cas, ça a clairement donné cette impression entre les interdictions de manifestation qui ont été mises très tôt et puis un déploiement de force totalement démesuré. La volonté était clairement de rentrer en confrontation, de se servir de ces images-là pour arriver à tuer le mouvement.
Une stratégie de violence volontaire mise en avant par les organisateurs qui ne fait à aucun moment état des milliers de projectiles envoyés depuis le cortège sur les forces de l'ordre, comme en témoigne une vidéo communiquée par la gendarmerie. Sur les images prises depuis l'intérieur d'un camion de CRS, on peut voir des centaines de pierres, mortiers et cocktails Molotov s'abattre sur les forces de l'ordre.
Merci Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1 dans les Deux-Sèvres. Sur Twitter, Elisabeth Borne a dénoncé des actes inacceptables et pointé du doigt l'irresponsabilité des discours radicaux qui, selon elle, encouragent ces agissements. La Première ministre qui sera reçue demain à midi par le Président de la République. Ensemble, ils rencontreront ensuite les cadres de la majorité ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Des discussions à la veille d'une dixième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Et dans le cadre de cette mobilisation contre la réforme, la grève qui se poursuit dans certains dépôts de carburant et raffinerie augmente la menace d'une pénurie d'essence à l'échelle du pays. La situation est de plus en plus tendue dans les stations-service. Vendredi, on estimait que 18% d'entre elles manquaient d'au moins un type de carburant et que 8% sont complètement à sec. Le porte-parole de la CGT, Benjamin Hamard, appelle les Français à faire le plein, car il en est certain, la grève n'est pas prête de se terminer.
La réalité, c'est qu'il y a un mouvement de grève depuis un certain nombre de jours et qu'au bout d'un moment, bien évidemment, les effets se font sentir. Le gouvernement, quand il dit que tout va bien aller, eh bien évidemment, surtout que ceux qui nous écoutent ne le croient pas et aillent faire le plein. Ils disent ça et quelques jours plus tard, eh bien, il va y avoir des queues interminables devant les stations essence. On voit bien d'ailleurs l'évolution ces derniers jours. Il y a de plus en plus de stations qui n'ont plus d'essence, qui n'ont plus un ou plusieurs types de carburant. On ne veut pas de cette réforme. Voilà. Donc, si on veut continuer à paralyser le pays pendant des mois, ben, on continue, mais nous, on ne lâchera pas.
Et dans le secteur des transports en commun, le trafic sera encore très perturbé demain en raison de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Comptez 4 TGV et Ouigo sur 5, 2 TER sur 3. La RATP prévoit de son côté 2 trains sur 3 concernant les RER C et D et 1 train sur 2 pour les RER A et B. Et dans les colonnes du JDD, Olivier Véran a évoqué l'après-réforme des retraites. Pour lui, il n'y aura pas de retraite pour les réformes. Le porte-parole du gouvernement indique donc que malgré la contestation en cours, l'exécutif va continuer de dérouler sa feuille de route. Des futurs textes de loi parfois impopulaires mais nécessaires pour l'avenir du pays, selon Olivier Véran.
La France qui traverse une période économique marquée par l'inflation, une hausse des prix qui pèse lourd sur le porte-monnaie des citoyens, mais aussi sur celui des associations.
En raison de la baisse du pouvoir d'achat des Français, les collectes de dons à la sortie des supermarchés sont beaucoup moins fructueuses. Certaines qui collectaient 300 kilos de dons en une journée ne dépassent même plus les 200 kilos. Parmi ces associations, le Secours Populaire d'Auriol, dans le 13e arrondissement de Paris. Noah Moussa s'est rendu sur place pour Europe 1.
Devant son chariot rempli à ras-bord, Yacine, 24 ans, fait l'inventaire.
J'ai pris du champignon, j'ai pris des légumes, des fruits.
Avec seulement 250 euros par mois pour se nourrir, il n'a pas eu d'autre choix que de s'inscrire au Secours Populaire.
C'est la troisième fois que je suis venu à cause de l'inflation. Ces courses vont me suffire pour 15 jours. Si c'était dans un supermarché, ça va me revenir à 80 euros.
Et là, vous avez payé combien ?
2 euros, chose qui est quasiment gratuite.
Comme lui, de plus en plus de gens demandent de l'aide en raison de l'inflation. Mais l'association est aussi touchée par la hausse des prix qui l'empêche de se procurer autant de produits qu'avant, explique Louise, la responsable du lieu.
Les gens qui font des dons achètent des produits plus de base qu'on a déjà et vont avoir plus de mal à acheter les produits qui sont plus chers, les produits d'hygiène et principalement les produits bébés aussi. Vous avez peut-être vu dans le rayon, on n'a pas de couche T5, c'est compliqué quoi.
À cause des pénuries, Louise craint même de devoir refuser des demandes d'inscription prochainement.
Reportage de Noah Moussa du service économie d'Europe 1. Et c'est également cette inflation qui a poussé le gouvernement à reporter encore une fois la fin de l'impression systématique des tickets de caisse. Le ministère de l'économie indique que les remontées du terrain démontrent que ce n'est pas encore le bon moment. En cette période de hausse des prix, de nombreux clients tiennent à vérifier le montant de chaque article sur leur ticket. Initialement prévu au 1er janvier 2023, cette mesure issue de la loi anti-gaspillage avait déjà été repoussée pour les mêmes raisons.
19h06, dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 avec la situation en Ukraine au lendemain de cette annonce de Vladimir Poutine du déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. A tout de suite.
Europe 1 soir week-end. Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal d'Arthur Muriot sur Europe 1. La tension monte en Ukraine. Vladimir Poutine annonce que Moscou va déployer des armes nucléaires en Biélorussie.
L'Ukraine demande donc une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU pour contrer ce qu'elle qualifie de chantage de la Russie, Thibault.
La Russie, oui. Vladimir Poutine n'arrive pas à avoir le dessus en Ukraine. Donc
On va écouter Thibault Hue qui a des explications à nous donner sur justement ce déploiement de forces nucléaires tactiques en Biélorussie.
Tout à fait Pierre, des explications avec l'Ukraine qui a réagi tout de suite effectivement à cette provocation. Elle accuse la Russie de prendre le Bélarus en otage nucléaire. Vladimir Poutine a lui déclaré que des avions équipés étaient déjà prêts à utiliser ces armements. Les équipages seront en formation au mois d'avril et un entrepôt spécial sera achevé début juillet, précise aussi le président russe. Une nouvelle escalade des tensions mais qui reste relative sur le plan opérationnel, explique Patrick Martin-Jeunier, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe.
La Russie, Vladimir Poutine, n'arrive pas à avoir le dessus en Ukraine. Donc on sent bien qu'il essaye d'étendre son emprise également sur les pays dits satellites. Il veut montrer que ce pays est prêt à le suivre dans une éventuelle intervention en Ukraine. Pour l'instant, c'est une menace qui reste théorique. Les armes nucléaires tactiques vont arriver, mais on sait très bien qu'une arme nucléaire ne peut pas être utilisée dans ce conflit parce que ça pourrait dégénérer en Troisième Guerre mondiale.
Et cette déclaration de Vladimir Poutine est aussi une réponse au Royaume-Uni qui évoquait l'envoi de munitions d'uranium appauvri à l'armée ukrainienne. Le Bélarus, lui, ne prend pas directement part dans ce conflit, mais selon Kiev, Moscou se serait servi de son territoire pour mener des frappes et conduire son offensive sur la capitale l'année dernière.
Merci Thibault. Et précisons que de leur côté, les États-Unis déclarent n'avoir aucune indication sur le fait que la Russie ait pu transférer des armes nucléaires au Bélarus. La guerre en Ukraine qui se joue également sur le front informatique depuis le début du conflit. Le nombre nombre de cyberattaques contre Kiev a été multiplié par 5. C'est ce que révèle un rapport de l'unité de cyber-renseignement de l'industriel français Thales, qui a pu consulter le journal du dimanche. Dans le détail, il montre que les principales attaques concernent les services publics et la gouvernance ukrainienne. Mais Thales prévient, cette guerre entre dans un nouveau stade et les alliés de Kiev pourraient être massivement pris pour cible par les hackers russes.
Aux États-Unis, le bilan s'alourdit après le passage de plusieurs tornades dans le Mississippi.
Les services d'urgence de l'État indiquent qu'au moins 25 personnes seraient mortes au cours de cette catastrophe naturelle. Il y aurait également plusieurs dizaines de blessés. Des toits ont été arrachés, des arbres déracinés. Des quartiers ont été entièrement rasés de la carte. Le président Joe Biden a ordonné le déploiement de l'aide fédérale pour, dans un premier temps, permettre le relogement des familles sinistrées. Le Fonds monétaire international appelle à la vigilance. L'organisation a fait part de sa prudence face à l'incertitude encore élevée dans le secteur financier. En cause, les déboires des banques occidentales liées à la faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis. Il y a une semaine déjà, UBS avait été contrainte de racheter son concurrent, le Crédit Suisse, pour rassurer les marchés financiers.
On passe au sport. Et on commence avec du cyclisme et une victoire française.
Christophe Laporte s'impose au Gent-Wevelgem devant son coéquipier Wout van Aert pour un doublé Jumbo-Visma. Écoutez Christophe Laporte.
Je suis très heureux, on a toujours du mal à se rendre compte quand ça se passe comme ça. Et c'est une journée incroyable pour l'équipe et pour moi, voilà, ça restera gravé dans ma mémoire encore. Ah, je la classe au même niveau que ma victoire sur le Tour de France. Wout était clairement plus fort que moi, je pense qu'on l'a vu à la télé, j'ai pas besoin de le cacher. Mais voilà, je suis très reconnaissant vers lui, c'est un grand champion sur le vélo et aussi en dehors, donc je suis très, très heureux de trouver avec un coureur comme ça.
Propos recueillis pour Europe 1 par Axel May. En MotoGP, l'Italien Francesco Bagnaia remporte le premier Grand Prix de la saison sur le circuit de Portimao au Portugal. Il devance donc l'Espagnol Maverick Vinales et son compatriote Marco Bezzecchi. Enfin, ajoutons que Marc Marquez a abandonné la course après un violent accrochage dont il est à l'origine avec le Portugais Miguel Oliveira.
Le football, après leur victoire face aux Pays-Bas, les Bleus se préparent donc désormais pour leur rencontre avec l'Irlande.
Un match de qualification pour l'Euro 2024 qui aura lieu demain sur les terres irlandaises où nous retrouvons Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Cyril, le nouveau capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, a encore marqué les esprits en conférence de presse.
Il a fait un grand numéro, Kylian Mbappé. D'abord, une surprise de le voir. Il nous avait dit il y a quelques jours qu'il ne viendrait pas systématiquement devant les médias avant les matchs des Bleus. Mais il nous a expliqué, Didier Deschamps voulait que je vienne aujourd'hui en conférence de presse. Cela fait partie de mes nouveaux devoirs. C'est ce qu'a dit donc le nouveau capitaine des Bleus. Et en effet, il a répondu en français. Il a répondu même en anglais parfait. Il s'est d'ailleurs lui-même chargé de la traduction en français, mettant le traducteur au chômage technique. Mais le moment le plus fort, eh bien, c'est sa réponse sur Michel Platini. Après avoir marqué 38 buts en bleu, on lui a demandé si son prochain objectif, c'était de rejoindre Michel Platini. Ses 41 réalisations avec le maillot frappé du coq. Écoutez la réponse du crack, c'est sans équivoque.
Bah, c'est à la fois un honneur et c'est à la fois la prochaine cible à battre. C'est comme ça. Je vais continuer mon chemin jusqu'en haut. Mais Michel Platini, c'est une légende absolue. Hein. Que je le dépasse demain ou après-demain, ça restera Michel Platini, une légende incontestée du football français. Mais comme vous l'avez dit et comme je l'ai dit, moi je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini.
Michel Platini, la prochaine cible à abattre, c'est ce qu'a dit Kylian Mbappé, qui n'est plus qu'à 3 buts de la légende. Donc Platoche, Didier Deschamps, lui, n'est pas surpris, nous a dit c'est Kylian. Des Bleus qui s'entraînent actuellement hein, sous mes yeux à l'Aviva Stadium de Dublin sur une pelouse superbe après une petite pluie typiquement irlandaise.
Cyril, pas trop de Guinness hein.
Alors on va faire attention sur la Guinness avec Jean-François Pérez, mais on prendra un fish and chips et on pensera, on lèvera un verre pour vous.
Bah j'espère bien, merci, bon match Cyril de la Morinerie. En direct du service des sports d'Europe 1, les Bleus, il en sera question bien sûr dans Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Pierre, en effet on va revenir sur cette séquence très importante de Kylian Mbappé qui s'impose de plus en plus comme capitaine et qui continue à écrire l'histoire, à écrire son histoire. C'est-à-dire que Michel Platini, le grand Michel Platini, la légende, est une cible à abattre. Mais je vous parie Pierre de Villeneuve, qu'il va même battre le record absolu d'Olivier Giroud avant la fin de l'année 2023 et les 53 buts.
Allez, pari tenu.
Mais c'est obligatoire. Un bon fish and chips qu'on partagera avec Jean-François Pérez et Cyril de la Morinerie. On en parlera ce soir parce que, évidemment, il a des statistiques incroyables. C'est un véritable rouleau compresseur, une grande détermination et un très grand champion déjà, alors qu'il n'a que 24 ans. C'est quand même énorme avec Kylian Mbappé. On évoquera aussi le leadership perdu par Antoine Griezmann, qui aurait bien voulu être capitaine. Sauf que peut-on être capitaine quand on a les cheveux roses? C'est très compliqué.
Oh, la question.
Et en même temps, ça lui enlève un petit peu de pression sur le terrain. Ça lui permet de marquer des buts et de laisser le pouvoir à Kylian Mbappé, qui le lui rend bien.
Merci Léonie Rosso. À tout à l'heure 20h pour Europe 1 Sport. Merci Arthur Muriot pour ce journal de 19h. La météo maintenant, Valérie Darmon. Changement de temps radical en ce début de semaine.
Effectivement, après notre dimanche agité, la journée de demain s'annonce calme, avec quelques averses encore en matinée des Pyrénées aux Alpes et au Jura, et des éclaircies retrouvées partout ailleurs tout au long de la journée. Mardi, dans le nord-ouest, le ciel sera assez nuageux avec quelques pluies éparses et du vent le long de la Manche. Le temps sera plus calme ailleurs, il fera de nouveau doux partout, surtout l'après-midi au sud de la Garonne. Mercredi, chaleur carrément dans le sud-ouest, douceur partout ailleurs et au nord de la Loire, quelques pluies et un petit peu de vent, mais un temps calme avec 25 degrés annoncés tout de même à Bordeaux, à Biarritz et à Toulouse. Jeudi et vendredi, les pluies reviennent en force. Et puis la perturbation de mercredi finira par gagner les trois quarts du pays entre jeudi et vendredi, apportant de bonnes pluies et un vent sensible au nord de la Loire. Les températures de demain en attendant, aux meilleures heures de 5, 4, 3, 2, 1. Les températures de demain en attendant aux heures les plus chaudes de la journée, entre 8 à Lille et 22 à Bastia.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, immersion dans le zooparc de Beauval, qui vous réserve bien des surprises. À tout de suite.